Repos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Jacques Couture.
Bonjour.
Et de Robert Rivard.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville. Et notre thème aujourd'hui sera « L'amour est un piège dont nous délivre le bonheur ». L'amour est un thème très, très galvaudé aujourd'hui. On s'en sert à tous les sauces. Dieu est amour. On reçoit des j'aime, même sur Facebook, des j'aime. Donc, j'ai l'impression que le mot amour ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Il est comme délavé. Et après au moins 3000 ans d'utilisation par l'Église pour tuer, pour piller au nom du Dieu amour, je crois qu'il est temps de changer notre optique et d'aller plutôt vers le bonheur. Donc, dans ce sens, je crois que quand on commence une relation amoureuse, il me semble qu'on devrait plutôt commencer une relation bien heureuse. Commencer par le bonheur, par être heureux avec la personne, et puis peu à peu laisser grandir l'amour un peu comme un jardin.
Ah, ben, je veux dire, ça m'inspire particulièrement ce que tu dis, parce que c'est ce que je vis en ce moment par une nouvelle rencontre d'il y a à peu près 2-3 semaines. Puis voilà, quand on apprend à se découvrir, on voit comment les gens sont. Je peux dire, j'ai pu être à même de découvrir sa façon de penser, sa manière d'être joyeux. Donc moi, ce qui m'a charmé tout de suite au premier abord dans la rencontre, c'est tant de joie, quelqu'un qui a un grand magnétisme par le bonheur, par lui-même, puis par son style de vie. C'est sûr que j'apprends à le connaître au fil des jours et des semaines, mais j'étais étonné de constater qu'il y avait quelqu'un qui pouvait être aussi jovial, je pense dans le bon sens du terme, dans un sens qui nous interpelle, mais je me dis, la joie, il l'a fait naître, puis il m'a raconté tant d'histoires qu'il a pu vivre, même on dirait que c'est comme un mécanisme de, pas juste de protection, un mécanisme pour être pleinement lui-même, depuis qu'il y a eu peut-être une grande séparation amoureuse récemment, mais je pense qu'il a toujours été comme ça. C'est ce qu'il me dit, ce qui ressort dans son histoire. Donc, je pense que des gens joyeux, qui ont un grand magnétisme, qui aiment rigoler, c'est sa terminologie personnelle, sa façon de parler de lui-même. Il dit, moi, j'aime la vie, j'aime m'amuser, j'aime rigoler. Ah, j'ai dit, ben, comme c'est excellent. Puis, donc, cela m'amène à avoir le goût de l'aimer. Donc, c'est drôlement dit, c'est drôlement, je fais comme un parallèle contraire, un parcours d'une autre nature, je roule les choses autrement.
Tu détournes les choses, tu contournes les choses. Enfin bref, l'amour c'est un terme tellement, tu sais, c'est peut-être le mot le plus puissant qui résonne dans la tête des gens. C'est un objectif pour plusieurs, c'est la quête pour plusieurs. C'est le bout du bout, la réussite la plus totale. Mais le mot, comme Nicolas mentionnait tantôt, était vraiment utilisé à toutes sortes de sauces, incluant la souffrance, le meurtre, le génocide, toutes sortes de choses. T'sais. Donc, il faut prendre un peu de recul avec ça, puis être un petit peu plus sobre et regarder comment on peut vivre ça sans nécessairement être complètement englouti dans des données ou des pratiques qui amènent la souffrance là-dedans. Tu sais, c'est une contradiction, l'amour et la souffrance. Pourtant, les religions nous l'ont vendu. On réussit à faire une sandwich avec de l'amour dedans, de la souffrance, et puis brûler dans l'enfer pour une éternité. Puis on va ajouter des tomates puis des oignons là-dedans, puis on va mettre un autre enfer, puis on nous a vendu ça, là, tu sais. Alors, c'est pas mal... faut être pas mal étonné que des gens qui ont parfois un quotient intellectuel très élevé, des ingénieurs, des techniciens, des gens... On dirait perdre toute cette capacité intellectuelle-là quand ça arrive à des choses comme la religion. tu sais. C'est comme tout ce qui est vraiment un esprit critique, vraiment là, sort, tombe par la fenêtre dehors, puis c'est comme on perd tout sens de choses. Alors, on est ici aujourd'hui justement pour faire peut-être une douche froide là-dessus, puis mettre un petit peu d'ordre dans la pensée. Alors,
en quoi l'amour est un piège, selon moi? Parce que c'est quelque chose d'extérieur. Moi, j'ai tendance à définir l'amour comme la force de gravité. Pour moi, c'est quelque chose de similaire, c'est-à-dire la force de gravité qui tient, par exemple, la Terre et le Soleil, la Lune et la Terre. C'est comme une force qui est ici l'espace-temps. Mais à mon avis, ce n'est pas une force qui existe lorsqu'on est dans l'absolu. Beaucoup de gens aujourd'hui vont dire « Dieu est amour ». Moi, je crois que Dieu est bonheur. Parce qu'on dit, par exemple, « Je suis heureux ». Le bonheur est dans le « ici, maintenant », alors que l'amour est toujours l'amour d'un objet. Même si c'est soi-même, je m'aime moi, j'aime moi en tant qu'objet, et c'est toujours quelque chose d'extérieur. Et d'où le danger, à mon avis. Lorsqu'on est en amour, puis on est heureux parce qu'on est en amour, c'est évident que tôt ou tard, ça va planter.
Il y a quelque chose qui va nous nuire d'une certaine façon. Mais Robert, justement, tu faisais référence à des gens qui ont des grands quotients ou qui sont des gens qui ont réalisé, qui sont intelligents, en tout cas, un niveau d'intelligence, mais qui sont désorganisés ou qui laissent de côté tous leurs principes, leur rationnel ou leur manière de bien de réfléchir critique. Sur la vie, leur sens critique, par des croyances et des religions, mais je le dirais aussi par rapport à des dynamiques qui se laissent comme... prendre au piège par une sorte de conformisme par les types de relations amoureuses conventionnelles que la société impose d'une façon directe et indirecte, même en union de fait ou par le mariage. Les gens en sont pris par ce carcan organisé, défini en dehors d'eux, sans... la personne qu'ils vont rencontrer, si c'est un homme qui va avoir une femme dans sa vie, la femme en question va tout faire pour lui imposer ce modèle-là. Pour elle, ça va être le modèle qui va être le mieux pour elle. Mais quel sera le niveau, comment elle pourra prétendre vraiment d'aimer cette personne-là, son conjoint, dans sa vie, si elle lui impose quelque chose qui ne sert pas à l'épanouissement ni d'elle ni de lui. Elle peut peut-être prétendre ou croire, avoir cette fausse croyance que cela va la rendre heureuse. Donc là, je parle ici d'un sujet autre peut-être, mais que ce n'est pas nécessairement une voie que d'être heureux et d'être épanoui avec un partenaire dans sa vie que de suivre ce point de vue conformiste.
Ouais.
Mais le bonheur, je veux dire, l'amour tel qu'on nous l'enseigne présentement...
Est-ce que c'est trop rationnel, mon affaire?
Cet amour vient plutôt du judéo-christianisme. Et moi, j'avais été choqué à l'époque où j'avais lu l'Ancien Testament. Oui, je voyais que c'est un Dieu vengeur et jaloux. Et donc, je ne me surprends pas de voir que les gens sont jaloux comme ça aujourd'hui.
Ils
donc,
sont mélangés aussi.
La jalousie... À mon avis, c'est ce qui brise le bonheur. Tu ne peux pas être jaloux et heureux en même temps. Ouais, tu es jaloux, voyons donc. Tu brimes le bonheur des autres, tu as peur de les perdre. Alors que quelqu'un qui est heureux, libre. Moi, je suis très heureux et je fais confiance à mes compagnes. Je leur donne la possibilité d'aller voir à l'extérieur. Et s'ils ne reviennent pas, je les bénis.
Ou tu leur donnes aussi la possibilité de donner des expériences à l'intérieur aussi, de ce que tes expériences que tu racontes au fil des émissions. C'est pas juste des occasions que tes compagnes font faire des rencontres à l'extérieur de chez toi, par exemple, et elles pourraient avoir quelqu'un d'autre dans leur vie chez toi également. Donc, c'est un autre stade. Moi aussi, je l'ai expérimenté. J'aime particulièrement entendre que mon partenaire... où mes partenaires me racontent de nouvelles expériences qu'ils ont vécues récemment. Alors moi, ça me stimule hautement d'entendre parler des aventures sexuelles de mon copain avec d'autres mecs. Je trouve ça extraordinaire. Moi, je raffole de ça. J'attends qu'il me raconte sa prochaine expérience. Disons que je suis un peu hors standard, je reconnais, ici.
Nous le sommes tous à cette émission, donc ne t'en fais pas.
Mais une des choses qui me revient, moi, pour qu'est-ce qui est de cette démarche-là et de faire du sens, c'est le point de départ. Ça revient au point de départ, qu'est-ce qu'on pense qu'on est et comment on gère nos énergies. Et c'est de là que le statut de la personne devient très important parce que si tu te sens toujours, tu marches dans la vie avec une attitude qu'il te manque quelque chose, que vraiment tu es incomplet, On a des programmations qui nous amenaient à penser à ça. On a des revendications qui nous disent ça, des modes, des toutes sortes de choses culturelles ou autres, religieuses, qui nous disent que tu es incomplet, sans
sa douce moitié.
C'est ça, exactement. Elle me complète, sans elle, je suis incomplet, tout ça. C'est des balivernes, ça, puis c'est des choses malsaines. Désolé, mais moi, je vois ça comme ça. Alors, on se doit de partir d'un point de départ solide, d'une fondation solide sur soi-même, du respect. Et surtout, pour moi, c'est au niveau énergétique. C'est pas... Ici, on parle des niveaux conceptuels parce qu'on utilise le langage. Mais ce n'est pas une question de langage pour moi. Le langage, c'est ça qu'on utilise ici, mais le langage ne livrera pas l'expérience énergétique d'être plein.
Mmh.
C'est bien dit.
Oui, absolument. J'aime ces paroles.
Bien, on va faire une pause. On va écouter la chronique de Audrey Tardif qui s'appelle « Sous l'influence du bonheur ». Puis nous allons revenir avec ce thème « L'amour est un piège dont nous délivre le bonheur ».
Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Propos sur le bonheur et bienvenue à la 6e capsule Sous l'influence du bonheur avec Audrey. J'ai 19 ans et puis j'essaie de mieux comprendre le monde complexe dans lequel je vis. Je commence avec une citation de Michel Buteau. Le printemps s'annonce toujours rempli de promesses, sans jamais nous mentir, sans jamais défaillir. Eh bien oui, les amis, le printemps est officiellement arrivé depuis le 20 mars. On a déjà goûté aux premières pluies. En fait, du jour au lendemain, les tempêtes de neige ont viré en pluie. Pour ceux qui ne régalent pas de l'hiver, faut pas crier « Hourra » tout de suite. Le vent hivernal parvient souvent à nous surprendre par sa persistance, mais c'est certainement des signes encourageants. Le printemps, c'est l'heure de notre florescence. C'est le temps de l'année où est-ce que beaucoup de projets et puis beaucoup de rêves naissent. C'est la saison de la poésie et de l'art, la création. Le printemps donne naissance souvent à une effervescence d'innovation artistique. L'art est essentiel dans notre vie. Ça nous permet de se libérer l'esprit et puis ça nous motive jusqu'à la réussite. J'ai assisté à un concert-conférence de Thomas Hellman qui parlait justement de l'importance de s'entourer de l'art. Je le cite, « La grande force de l'art, c'est qu'on n'est jamais seul. » C'est très vrai qu'on peut toujours compter sur l'art pour se remonter le moral, pour nous faire sourire à travers de grandes peines. J'ai vraiment été inspirée par sa conférence et par son sens de compréhension de notre société. En fait, ce que lui disait, c'est qu'on a souvent l'impression que juste une seule forme d'art, c'est la nouveauté. Et quand on pense à la nouveauté, on assume que c'est une forme de progression. Tout ce qui vient sur notre chemin, tout ce qui est présenté à nous comme étant nouveau, c'est pas nécessairement meilleur et c'est important d'avoir un peu de discernement pour être capable de faire des distinctions. Parfois, c'est surtout important d'aller puiser à nos sources, puiser dans le passé, justement, voir ce que d'autres ont fait avant nous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer et se réinventer d'une sorte. Sur cette même lignée de pensée, Thomas Hellman s'est arrêté pour parler un peu de notre tendance qu'on a, en tant que société, de se baigner, et puis même de se cacher dans le bruit et dans la complexité. On cherche souvent à s'afficher, à être présent, à se faire voir. Mais on prend pas beaucoup le temps de s'arrêter et puis d'être à l'écoute. C'est une réflexion de notre société et de notre culture, surtout, que j'ai trouvée absolument brillante. Ça fait réfléchir qu'en effet, on s'arrête pas très souvent, même très rarement, pour rechercher l'absence du bruit, pour carrément rechercher le silence. Même quand on essaie de se perdre dans nos pensées, même quand on est dans notre petite paix, on va dire, dans notre petit monde, on n'est pas plus à l'écoute. Par exemple, écoutez-vous vraiment la musique dans vos oreilles dans le transport en commun? Ou est-ce que vous êtes plus comme moi et puis que les titres défilent simplement, une question de remplir le temps mort? Cette idée qu'on est toujours en train de courir pour remplir notre temps libre, ça fait maintenant partie de notre quotidien. En étant conscient de tout ça, c'est donc peut-être plus en trouvant une façon de s'apporter un peu de simplicité et puis de s'apporter du silence dans notre routine qui nous rendra heureux cette saison. Laissez la fièvre du printemps vous emporter, c'est simple et c'est bénéfique. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et c'est un rendez-vous pour la prochaine fois. Écrivez-moi sur notre site web propossurlebonheur.com. Je suis Audrey et c'était la 6e capsule sous l'influence du bonheur à l'émission Propos sur le bonheur.
retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « L'amour est un piège dont nous délivre le bonheur ». Qui n'est pas tombé en amour comme ça, là, d'un coup, dans sa vie, et puis tout change, on est heureux, on est enivré, la passion est là. Et puis, c'est ça, avec le temps, finalement, ça s'estompe tranquillement. Et la passion laisse place au vrai amour. En tout cas, selon moi, l'amour, c'est quelque chose qui est comme un jardin. J'ai eu quelquefois des coups de foudre, là, mais ça n'a jamais été très fonctionné. Les femmes avec qui ça a bien fonctionné, c'est des femmes avec qui, au début, j'ai plutôt mis le bonheur en premier. Par exemple, ma compagne principale, présentement, au début, je l'ai tout de suite avertie. J'ai dit, ça ne sera pas l'amour qui va être en premier plan. Je sais que ça, c'est important pour toi, mais focussons plutôt sur la liberté, le bonheur, et de se sentir heureux un avec l'autre. Et puis, l'amour va grandir. Bon, elle était déjà en amour comme ça, tout de suite au début. Mais moi, je l'ai laissé grandir tranquillement parce que bon, j'ai eu des mauvaises expériences avec le temps. C'est arrivé très souvent où des femmes ont dit « je t'aime », et après 2-3 mois, c'était fini. Alors, c'est quoi l'amour si c'est aussi impermanent? Donc, maintenant, je fais attention. Quand quelqu'un me dit « je t'aime », je dis « OK, on va prendre le temps de se connaître et de devenir amis. » Et puis, je suis d'accord, laissons grandir l'amour. Mais ne fondons pas notre relation sur l'amour.
Ben, prendre son temps, c'est toujours une bonne chose. Puis c'est un indicateur peut-être de notre fragilité au moment où la rencontre se fait. Autrement dit, quelqu'un qui est hâtif et puis qui perd la tête et puis qui est prêt à faire toutes sortes de choses. Et puis tu packes l'intensité et tout ça, mais tu oublies... Tu t'oublies, tu mets tout ça sur la relation, puis la relation devient l'identité. C'est une trappe. Je pense que c'est un problème parce que là, tu t'oublies. Puis l'idée de s'oublier dans une relation, c'est malsain. Mais tu sais, c'est ça. La majorité des gens vont le faire parce qu'ils cherchent à se compléter, comme on parlait tantôt. Ils ne cherchent pas à s'élever. Et moi, dans mon cas, j'ai une nouvelle rencontre. C'est très intense en ce moment. Mais je sors de là. Animé, bien sûr, de belles émotions puis de beaux sentiments. Mais j'étais déjà autosuffisant, plein, sur mes deux pattes, fonctionnel, indépendant, heureux, plein, avant la rencontre. Alors, ce que cette compagne m'amène, elle monte ma base et puis elle m'élève très haut. Ceci étant dit, et puis c'est beaucoup plus agréable, hein, une vie colorée, une vie remplie de belles odeurs, de bons goûts, puis de belles textures et tout ça, c'est plus intéressant qu'une vie de rab monochrome, sans tu sais, dans ce sens-là. Je suis un extrême, là, mais c'est pas, tu sais, c'est... Donc, je fais la part des choses dans ce sens-là.
Eh bien, j'aime d'envisager la vie et les rencontres, les fréquentations avec continuité. Je peux dire que j'ai changé au fil des années. Souvent, on peut retrouver ça évidemment dans la communauté gay, des rencontres beaucoup plus éphémères, passagères. J'étais comme ça, on dirait, à une époque, peut-être il y a 10, 15, 20 ans. C'est sûr que c'est les attraits à la jeunesse, la vingtaine, on veut expérimenter toutes sortes de trucs. Mais mon point de vue, à ce moment-là, ce que je vivais, j'ai l'impression que je ne souhaitais pas aucunement garder le lien avec les gens. Je souhaitais les connaître, mettons, quelques semaines et tout, un amour de vacances, comme on peut dire et tout. Mais là, je peux dire que depuis... au fil du temps, en ayant pris conscience de moi-même et de ce que j'aime, et en ayant connu des gens qui m'inspirent. Les gens peuvent être des guides pour nous, des amis de notre essence peuvent nous éduquer en les voyant vivre et tout, en apprenant d'eux, en les entendant parler de leur fréquentation. Mais là, j'ai trouvé ça extraordinaire que maintenant, c'est au contraire. Oui, je suis quelqu'un qui est assez vaste, qui souhaite reconnaître beaucoup de monde. Parfois, je peux avoir le goût de fréquenter, d'échanger sexuellement avec plusieurs personnes dans la même journée. Ça, c'est bon. Mais en même temps, d'avoir quelqu'un dans ma vie ou plusieurs personnes avec qui que je vais envisager qu'il n'y a pas d'interruption, je pourrais les connaître et les apprécier autant dans 20 ans que maintenant. Donc, comme c'est fabuleux de savoir que cela est possible, tout en étant libre. Avant, la plupart des gens se disent, ben non, si j'ai quelqu'un dans ma vie, ça va être juste cette personne-là. Ça peut être ennuyant, ça peut être plate et tout. J'ai beau ne plus l'aimer parce que je suis tanné de cette personne-là, toujours le même corps, que c'est ennuyant, toujours le même corps. Moi, j'ai pensé ça souvent par le passé. Évidemment, mais c'est pour ça que je quittais la personne, puis j'en trouvais un autre pour faire du nouveau. Mais je suis pas le seul à penser comme ça. Hein. Beaucoup de gens, même ceux qui vivent une vie exclusive avec juste un partenaire, ils vivent ça, puis c'est pas ce qu'ils souhaitent en tant que tel. C'est pas pour rien qu'il y a tant de gens qui se trompent et tout. Parce que lorsque on est avec quelqu'un, puis on vit des choses avec d'autres personnes, puis on n'est pas exclusif, ben l'autre est au courant. Tu le disais bien en introduction, Nicolas, on ne fait pas les choses comme ça au hasard. Il y a une structure, il y a une organisation, il y a une façon de penser la vie avec l'autre que j'aime bien, que, en tout cas, c'est mon style, c'est ma façon d'être.
C'est plus facile de vivre ainsi quand on est heureux parce que, justement, on est plus délié, on est plus... on est plein. J'aime bien cette phrase que tu redis plusieurs fois aujourd'hui, Robert. Je me sens plein. Donc, quand je rencontre une femme, je l'avertis, je lui dis, tu ne seras pas mon complément, tu vas être un supplément. C'est tout ce que tu vas pouvoir être parce que je suis complet par moi-même. Et c'est ça la grande différence. Les gens, en majorité, quand j'en parle, ils sont un peu perdus, ils ne comprennent pas qu'est-ce que je veux dire.
C'est ça, la femme, souvent, ben, je ne veux pas dire pour tout, là, mais souvent, elle cherche à s'identifier avec son association, avec son partenaire. Donc elle s'identifie comme ça, donc elle devient son complément. C'est presque un mécanisme automatique. Tu peux pas blâmer ou critiquer ça, c'est la nature de la culture et tout ça. Mais c'est bien d'essayer de ramener ça. J'essaie avec ma compagne en ce moment de l'amener à... Puis ça va être tranquille parce que c'est tout des concepts étrangers, ces choses-là. Tu n'arrives pas toujours à présenter tout ça d'un coup, là, mais j'essaie d'être un petit peu un morceau à la fois.
Ben moi, au début, je me cassais un peu les dents en essayant de parler de mes idées ou de l'amour, du couple ouvert. Et ça, c'était comme trop d'un coup. Alors, j'ai compris qu'il fallait que je commence par la liberté. Mm-hmm. La liberté, il me semble que c'est important. C'est pas juste un mot. On devrait tous vraiment se sentir libre. Et ça a fonctionné. En tout cas, depuis que j'utilise plutôt la liberté, c'est facile de faire comprendre à l'autre que je suis quelqu'un de libre. Et surtout à mon âge, il me semble que on commence à être plus indépendant, généralement. Là, mais quand on est plus jeune, on a moins d'argent, on a moins d'expérience, on a moins de ci, moins de ça. Mais rendu à 40 ans, il me semble qu'on devrait déjà être indépendant, souverain de soi-même, avoir son propre appartement, être capable de subvenir à ses propres besoins. Et je trouve que ça l'aide. Ça aide beaucoup à tomber en amour librement parce qu'on n'a pas besoin de l'autre. Imagine que tu n'as pas d'argent et puis là, tu tombes en amour pour avoir plus d'argent ou avoir un endroit où rester ou pour avoir un enfant, etc. Il y a toujours une raison, alors que l'amour devrait... Ça devrait être la compassion dont parle le Bouddha. C'est-à-dire un amour qui rend libre. Et ça, c'est mal compris. Beaucoup de gens vont parler de la compassion, ils vont parler du bouddhisme, blablabla. Bla, bla. Et là, ils arrivent chez eux, puis ils sont dans la jalousie, la fermeture. Mais tu peux pas être deux. Il faut être un. Lorsque tu crois à la compassion, la vraie compassion, c'est l'amour inconditionnel. Donc, si ton compagnon ou ta compagne te dit « j'aimerais avoir une aventure avec ma secrétaire », tu devrais être capable de la bénir, de lui dire « ok ». Essayons, on va voir où ça va nous mener. Et puis, mais la peur vient toujours briser les
envies.
Les envies, les peur, désirs, la spontanéité. Il me semble que c'est quelque chose qui est là au départ. On se sent spontané, on offre des cadeaux, mais avec le temps, on dirait que ça se dissipe. Et si on garde un couple dynamique, ça ne se dissipe jamais. Si j'ai une compagne qui a un autre compagnon, je vais toujours être attentif. Je vais lui emmener des fleurs. Je vais être toujours plus attentif que si je pense que je la possède, que je l'ai mariée, qu'elle m'appartient, qu'elle est mon objet et que c'est fini. C'est classé jusqu'à la fin. C'est un peu ça l'idée, je pense, du piège de l'amour, qui n'a pas été bien compris, à mon avis, là. Mais de toute façon, je crois que c'est fini l'époque de l'amour. C'était l'époque du Christ, du Bouddha, les derniers 3000 ans. Et on entre dans l'ère du bonheur, à mon avis. Et c'est l'ère du Verseau. C'est une ère nouvelle basée sur des valeurs différentes. Parce que les gens ne sont pas très heureux sur la Terre. Franchement, là, toi, tu parles de ton nouveau Colombien. La Colombie est reconnue comme étant un des pays où les gens sont les plus heureux. Et moi-même, je suis avec une Colombienne, donc je peux dire qu'il y a une joie de vivre, ouais, malgré tous les problèmes qu'ils peuvent avoir là-bas, qui sont beaucoup plus intenses que nous, on peut avoir ici à Montréal. C'est ici, il y a une émeute, quelques étudiants se font tabasser, un petit peu de poivre, là-bas, 50 morts. Mm-hmm. Il y a comme une différence assez extrême.
Oui, c'est bien des choses. Tu parlais de compassion tantôt. Là. Il y a des choses à dire là-dessus sur la nature de l'amour et comment elle se divise. D'après moi, je le vois comme une fréquence maître qui se divise en d'autres fréquences, en d'autres qualités. Puis c'est ce regroupement de là, qualité, qui fait, qu'est-ce qu'on peut dire, l'amour, et non pas juste l'amour souffrant et d'autres types d'amour.
Bien, on va écouter une chanson de Stroma qui s'appelle Carmen, qui aborde justement ce sujet de l'amour un peu superficiel aujourd'hui. Alors, bien, on va revenir après avec ce thème. L'amour est un piège dont nous délivre le bonheur.
Vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime, et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, comme ça qu'on s'aime, et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, comme ça qu'on s'aime,
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi.
Un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats.
Hey.
Sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « L'amour est un piège dont nous délivre le bonheur. » L'amour a la fâcheuse manie de s'interposer. On dirait que c'est comme dès qu'on tombe en amour, les gens qui sont en amour avec nous croient qu'on leur appartient, qu'on est leur objet. Et puis là, il y a un paquet de limites qui s'imposent et puis qui deviennent... ils sont souvent absurdes parce que basés sur des émotions. C'est bizarre parce que je ne sais pas si on parlait de ça avant l'émission ou pendant l'émission, mais je trouve que quand quelqu'un tombe en amour, généralement, son quotient intellectuel diminue beaucoup. Hein, on voit les amoureux, des fois, on voit que le quotient intellectuel n'est plus si vif. On dirait que c'est comme une bulle qui se referme. On est en amour souvent, puis on veut toujours être avec l'autre personne. Et c'est ça le danger, à mon avis. C'est d'oublier, de s'oublier, de se décentrer. Et puis, il y en a qui relèvent les yeux après 10 ans, après 20 ans. Et puis là, ils sont complètement décentrés, ils ont oublié l'essentiel. Et à mon avis, c'est ça le vrai piège de l'amour.
Mais je pense que cela peut se percevoir facilement selon les gens que l'on rencontre dans un lieu public ou dans un autre espace, voir des couples, quelle est la dynamique qu'ils ont entre eux. Donc, je perçois que des dynamiques parfois de gens que j'ai pu rencontrer en voyage ou dans les cafés, dans les restaurants, c'est peut-être un bon exemple. Voir les gens, comment sont-ils? Est-ce qu'ils sont vraiment refermés dans leur dynamique en étant les deux ensemble? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse ce qu'ils sont dans leur union, dans leur lien? Donc, je vois que des gens semblent s'ennuyer parfois ensemble. C'est fréquent de voir des couples qui sont ensemble dans un même restaurant. Nous avons l'impression qu'ils n'ont rien à se dire. Ça, j'ai pu voir ça. J'ai pu voir des gens qui semblent pas avoir aucune complicité l'un envers l'autre. Ça peut être très triste. À voir, on se dit, ben, comment se fait-il qu'ils sont ensemble? C'est que pour un besoin, je ne sais pas trop lequel, pour faire leur déclaration de revenus ensemble, tiens, pourquoi pas? C'est une bonne raison pour eux. Hein? Non, mais,
pour avoir la citoyenneté.
Pour avoir la citoyenneté, parce qu'ils ne veulent pas être seuls, parce qu'ils ne sont pas quand même vivre seuls. Donc, ben, même s'ils ne sont pas vraiment heureux d'être avec quelqu'un, ben, parce qu'au moins c'est pratico-pratique. Là. Je vais avoir quelqu'un, si je n'aime pas faire la lessive, peut-être que l'autre va aimer faire la lessive. Hein? Ou bien c'est pratique aussi pour quelqu'un, pour les raisons de sexualité. On se dit, bien, finalement, je n'aurai pas besoin de me trouver un partenaire ou une partenaire toutes les semaines. Il y a toujours quelqu'un à la maison au cas où j'ai besoin de faire l'amour, là, au cas où j'ai le goût. Même si cette personne-là ne me tente pas, au moins j'ai quelqu'un. Il y a sûr qu'il y a des gens qui, sans le penser rationnellement, que c'est dans leur motivation de demeurer avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans leur vie.
Oui, tout ça, c'est vrai.
Ah oui?
Ça prend beaucoup, beaucoup de dynamisme pour pas tomber dans cette trappe. Moi, je l'ai fait. Maintenant, j'ai une belle relation, mais mm-hmm. au début, c'est le moment le plus important. Il y a comme des processus qui s'enclenchent. Et si on les laisse s'enclencher, mm-hmm. on est fait parce qu'on les a acceptés. Et cette fois-là, j'étais très, très conscient et très lucide et je savais exactement quoi faire parce que c'est évident, l'amour revient, les émotions, etc. Mais moi, j'étais déjà éduqué au niveau des émotions, et j'ai éduqué ma compagne. Et il y a des petites choses, c'est, par exemple, la personne va t'appeler bébé ou des petits mots comme ça. Moi, je n'accepte pas ça parce que j'avais lu dans Carl Jung à un certain point, il parlait de ces petits mots qu'on dit aux gens et qui les définit. Si je laisse une femme, par exemple, m'appeler bébé, je suis comme son enfant, elle va me materner, elle va être ma mère, et donc au bout d'un certain temps, je deviens comme un enfant, je ne suis pas un homme. Et ces petits détails, maintenant, je les connais tellement bien. Et maintenant, on a une relation ouverte et on l'a laissée ouverte dès le départ. Et je ne l'ai jamais laissée se refermer parce que je savais quand est-ce que la personne voulait justement par exemple, elle aime m'appeler amour. Amor en espagnol. Mais 50 fois par jour, 100 fois par jour, ça commence à devenir objet, pas mal. Donc souvent, je lui dis, mon nom n'est pas amour, mon nom est Nicolas. Et tu vois que ça la dérange parce qu'elle voudrait que je sois un objet. Mais si tu es dans la conscience, si tu es toujours conscient, tu ne laisses pas les gens te mettre dans cette petite boîte. Et ça finira jamais. Hein. C'est pas quelque chose que tu fais puis c'est fini. Hein. C'est jusqu'à la fin d'une relation.
Ça me fait penser à des réflexes aussi de gens dans des études. J'ai fait un cours en gérontologie, un programme à l'université. Puis il est question des mots aussi employés, par exemple, pour parler des personnes âgées. Ma petite madame, par exemple. C'est un peu le même principe. C'est diminutif. Là. Comme on dit ça, il y a un qualificatif. Quand on cherche pas à diminuer, mais ça a comme répercussion. Concrète.
C'est comme condescendant.
Ouais.
Ouais, c'est comme
c'est pas éthique, en tout cas. C'est pas dans le sens d'aller dans le sens de ce qu'elle est.
Ça élève pas la personne.
Non,
ça
effectivement.
Au contraire.
Sans le vouloir, ouais. Je dis pas que les personnes sont mal intentionnées. Tu sais ça. Pour eux autres, ils peuvent trouver ça bon. Ils peuvent avoir comme un mot d'attachement, un peu en quelque sorte, mais très, de façon très biaisée, très maladroitement utilisée, là, le mot ou c'est qui accompagne le mot, hein, la pensée, puisqu'il y a une pensée derrière tout ça, comme tu dis.
Si une intention. C'est juste une fois par jour, OK, mais c'est souvent mitraillé. Ouais, quelqu'un qui appelle sa compagne bébé, Ben, c'est tout le temps bébé, 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 bébé. Si tu te fais dire 100 fois par jour, 1000 fois par jour, bébé, fais ci, bébé, fais ça, ben, tu deviens le bébé.
Ou mon petit bébé, ou encore plus, ou quelque chose, d'autres mots de qualificatif.
Ben, il y a des vieux couples, l'homme va appeler sa femme maman,
ouais,
ou sa mère. Alors, tu vois tout de suite la relation. Et ça, c'est le danger. Tu vois que ce n'est pas une relation balancée. Mais ça demande beaucoup d'attention pour rester toujours équilibré dans une relation amoureuse, parce que l'amour, nécessairement, c'est un peu comme vraiment la gravitation. La Terre et le Soleil, cherchent à se retrouver toujours, mais il y a quelque chose qui les repousse en même temps. C'est un genre de force qui est très subtile. Et c'est pour ça que moi, je la compare à l'amour, parce que dès que c'est fini, à mon avis, dans le monde ici, l'espace-temps, il n'y a pas d'amour. Dieu n'est pas amour. Dieu est bonheur.
Ben, ouais, c'est ça.
Ça va être difficile à accepter.
Ça va être difficile à accepter parce que le mot amour, je suis confortable quand on parle au niveau multidimensionnel, la toile de fond, tu sais, la vibration de fond. Mais elle veut dire quelque chose de particulier pour moi. Elle ne veut pas dire l'amour souffrant, elle ne veut pas dire l'amour conditionnel, elle ne veut pas dire l'amour, comme on vient de discuter, puis toutes ces formes moindres de cette haute valeur-là. L'autre chose que j'aimerais ajouter, depuis que j'ai entamé, moi, une approche taoïste sur ma sexualité, je vois maintenant les choses vraiment d'une perspective complètement différente au point de vue énergie. Alors, tantôt, Nicolas a dit quelque chose de pas mal intéressant. Les gens deviennent, tu sais, au début, ils sont forts. L'intensité de la relation au début est très forte et tout ça. Et puis, on dirait qu'ils deviennent un peu...
moins soufflés.
non, comme moins intelligents, moins brillants. Ils perdent un petit peu un sens de critique et tout ça. Et puis moi, je l'associe avec une gérance de leur énergie pas empowering, comment on dit ça, qui n'est pas avantageuse. Et c'est dans ce sens-là. Alors, il y a bien des choses à dire là-dessus, mais ce sera peut-être le sujet pour une autre émission.
Oh, mais on a quand même du temps, si tu veux aborder le sujet.
Oui, bien, OK. Moi, depuis que j'ai commencé ça, c'est dramatiquement différent. Et puis, vu qu'on ne gêne pas de dire des choses choc parfois ici sur cette émission-là, n'est-ce pas?
Surtout
Jacques. Disons, pourquoi pas?
Alors, l'approche taoïste que que moi je poursuis en ce moment, et puis bon, c'est une poursuite, c'est un cheminement, c'est une approche qui, pour moi, vaut beaucoup. C'est l'usage que l'homme fait dans le cas de l'homme. La femme a une technique, il y a des approches aussi similaires. Mais c'est des approches où ce que l'homme, dans une relation intime, au lieu d'éjaculer d'une manière traditionnelle, au bout du climax et tout ça, et d'avoir une éjaculation génitale comme la plupart des gens font, eh bien, ce n'est pas le cas. L'homme retient son essence au lieu de l'exprimer par le pénis. Donc, ça veut dire ça que tu vis la même chose. Tu vis la même chose que mais la différence, c'est que, ben, dans mon cas, à moi, il y a des choses particulières, là. Dans mon cas, c'est que tu te fatigues jamais et puis tu peux être là pour ta partenaire longtemps, vu qu'elle, souvent, et tu sais, dans la littérature, il y a le yin et yang, puis la rivière yang, c'est la femme. La rivière va toujours gagner contre le feu de l'homme. Donc, c'est elle qui est vraiment le sexe plus puissant. Dans ce sens-là, c'est raisonnable parce que c'est elle qui doit enfanter, donc son sexe et son système est plus robuste que l'homme. L'homme peut se dépasser rapidement en contraste avec la femme. Et donc, cette approche-là fait en sorte que ça change les règles du jeu. Donc, moi, maintenant que ma partenaire fait la même chose, on fait la même chose que tout le monde fait. La seule chose, c'est que moi, au moment critique, puis c'est là que ça devient détaillé, là, puis la discussion de comment les pratiques, les techniques et tout ça, mais l'idée, c'est de recycler puis de rediriger cette énergie-là d'une manière cyclique, d'une manière différente dans le corps, afin d'essayer d'élever cette énergie-là pour l'utiliser de nouveau, et on recommence.
Ça me fait penser tout à fait, puisqu'il l'explique tout à fait bien, Pierre Morency, pas juste dans son livre « Demandez, vous recevrez », mais dans les séminaires puis les conférences qu'il a fait, où il y a des ateliers où il parle de sexualité, justement, avec une approche de l'Inde et tout, et tout ce que tu dis. Et il reprend aussi le symbole international de la pharmacie. Le nom m'échappe toujours. On voit que c'est comme une colonne vertébrale ou un serpent rejoint. Là.
Le caduceus, oui.
Ouais. Uh-huh. Bon, puis ça, c'est ça qu'il dit justement. L'énergie qui passe dans le corps de l'homme et qui, s'il n'y a pas éjaculation, l'énergie demeure en lui, tout ça.
Je dois faire une distinction. Ce n'est pas vraiment du tout l'approche hindouiste du Kundalini.
Ah
puis
bon,
tout cette,
okay. Tu la connais que, aussi, bon, cette
ouais,
approche-là.
La Kundalini, c'est une autre méthode beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus difficile et basée sur des déités. Autre. Le taoïsme, l'approche taoïste, c'est beaucoup plus balancé. Le yin et yang, tu te retiens pas, tu deviens pas, tu tues pas ton ego, des choses comme ça, tu fais l'amour
non,
avec
ta
part.
C'est le cas, mais...
Mais souvent, est associé avec des pratiques austères comme ça, et c'est pas le cas ici. C'est juste une question que, puis comme avant que je raconte ma compagne, j'avais déjà cette énergie me gérer de cette manière-là. Fait que tu sais ça, quand je parle d'être plein, ça a rapport à ça, ça a rapport à gérer à ça, ça a changé ma vie pour moi, et puis d'une manière très positive. Alors, je dois... prendre pause.
Nicolas, oui, parce qu'on va faire une pause musicale avec la chanson de Trio qui s'appelle « L'amour à la machine ouais. ». Puis nous reviendrons avec ce thème « L'amour est un piège dont nous délivre le bonheur ».
À la machine. Allez, à la machine. Passez notre amour à la machine. Faites-le bouillir pour voir si les couleurs de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine. C'est bleu, difficile. Les caresses, rouges, fragiles. Le soleil de la ville est tabasse. Et alors, elle passe. Allez, à la machine. Allez, à la machine. Gentil petit grand-père, noir les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Allez, à la machine. Allez, à la machine. Allez, à la machine.
Sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « L'amour est un piège dont nous délivre le bonheur ». Bon, on a un peu planté l'amour depuis le début de l'émission et je crois que le remède est le bonheur. Donc, comment justement se centrer sur soi-même, à mon avis, c'est de faire un travail sur soi. Avant d'aller vers les autres, on devrait être allé vers soi-même, se trouver, être centré, savoir qu'est-ce qu'on aime. C'est drôle parce que moi, je sais ce que j'aime. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai ma passion. J'étais passionné de bande dessinée. Ça s'est transformé at large en art. Alors, maintenant, l'écriture, on sait. Tout ce qui est création, en fait. Et je suis toujours surpris de rencontrer des gens qui me disent « ben, je sais pas qu'est-ce que j'aime ». Et ok, c'est correct quand tu es jeune, peut-être, mais quand tu es rendu à 40, 50 ans puis tu ne sais pas ce que tu aimes, il me semble que c'est dangereux parce que tu as déjà la moitié de ta vie déjà de fait sur la Terre. Et donc, moi, je suggère à tous de faire un travail sur soi parce que c'est en soi qu'on trouve les éléments permanents. Si tu peux perdre ta maison, tu peux perdre ton argent, tu peux tout perdre, mais si tu as des valeurs, tu as des idées...
Si tu as tes testicules encore avec toi, tu peux faire des choses.
Oui, à tous les... Ouais. On peut le dire comme une métaphore.
Non, en réalité, je vais ajouter que ce n'est pas une métaphore. J'ajoute ça parce que je veux mettre un peu de joie puis de sourire dans l'émission. Dans ce que je parle en ce moment, c'est cette fonction, cette biomécanique-là que l'homme possède, et les ovaires dans le cas des femmes, vraiment est une... C'est ça que, tu sais, où ce qu'on parle de concept, tu vois, le langage nous amène à concevoir des choses. L'énergie, parce que l'idée de parler de testicules puis tout ça, de sexualité, ça, pour moi, ça rapporte, tout ça, ça rapporte à parler du chi qu'on parle, que l'énergie universelle que la culture chinoise parle depuis des millénaires. C'est de ça que je parle, moi. C'est donc, pour l'homme, c'est par des testicules, une des sources majeures. Pour la femme, ça va être les ovaires. Et l'idée, c'est que si tu gères ton énergie personnelle, il y a bien des choses comme de la déprime, ça ne fait plus partie de ton discours ou tes pensées. Des choses qui se passent où ce que ta créativité, justement, en parlant de créativité, est renouvelée parce qu'elle est rehaussée. Et puis, tu pivotes sur une plateforme où ce que les émotions sont différentes. Tu opères d'un niveau supérieur. C'est comme si tu as passé du sous-sol de ton appartement au penthouse en haut. Là. Tu sais, je fais un extrême, là, mais ta perspective est plus élevée énergétiquement. Alors, tu ne marches plus comme un mendiant cherchant à se brancher dans un vagin symbolique de complémentarité. Là,
par la rencontre.
Oui, par la rencontre. Non, tu arrives déjà plein. Ouais. Tes sacs sont pleins, tout ça, tu as des choses à partager, des choses à discuter, des questions à poser. Là. Mais tu ne viens pas avec une pénurie dans ta vie. Tu n'accroches pas.
Ouais, hein, ouais. Mais justement, en ce sens-là, ça m'inspire, puisque je me repense à moi avec ce discours que tu as en ce moment, avec le fait d'être bien que soi-même, comme en tant que déjà comme célibataire. Je me rappelle, la plupart des gens ne le font pas, ou n'ont pas cette fantaisie où on s'ennuie la plupart du temps. Mais être seul, ça peut être extraordinaire aussi, d'avoir des moments. Moi, je me rappelle, j'étais célibataire longtemps, puis pourquoi ne pas se faire des repas, par exemple? Soi-même, bien, c'est sûr qu'on va manger, mais là, je me suis mal exprimé. Je veux dire, comme un repas d'invité, comme si on recevait un amoureux, justement, ou une amoureuse. Sert un repas pour soi, pour se faire plaisir, parce qu'on aime bien manger, se mettre des chandelles, se faire une cérémonie de soi, se faire un bain tellement extraordinaire que c'est le paradis terrestre, juste à se faire un bain pour soi, parce qu'on s'aime soi-même. Oui, c'est dans le thème et tout, mais c'est, vu que c'est le bonheur, le fait d'être heureux qui compte par-dessus tout, ben voilà, se faire prendre soin de soi-même consiste à ça aussi. Et si on est capable de toutes ces expériences-là avec soi-même, se faire plaisir de toutes les facettes que l'on peut, donc on sera beaucoup plus à même de pouvoir être avec d'autres en étant heureux, sans que ce soit de se sentir comme emprisonné ou dans une cage par une union, par une fréquentation. Donc on va avoir de quoi apporter, à ressourcer, à une frénésie qui va s'installer avec l'autre. Mais en tout cas, moi, c'est le même que je le vis. Parce que j'ai été capable de vivre et d'être parfaitement bien avec moi-même et m'amuser avec moi, à aimer beaucoup la vie, faire des cérémonies, de regarder des vidéos sur YouTube ou sur toutes sortes d'autres sites de vidéos, sur Internet, parce que c'est des grands moments où je me fais plaisir démesurément, et c'est en même temps une quête de l'autre, une quête de découvrir les gens. Donc ça, j'arrête pas d'expérimenter ça à haut niveau, mais ma vie, j'arrête pas de dire que ma vie, c'est un plein cinéma extraordinaire, merveilleux, j'en reviens pas. Mais un point que je veux, avant qu'on termine l'émission, je voulais aborder, on parle aussi de beaucoup de l'amour dans les fréquentations amoureuses, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup l'amour dans les liens qu'on a avec nos parents, la fratrie, tous les gens qu'on connaît, nos amis, les amis de notre essence, et le fait des aimer nous rend heureux aussi, de les gens qui sont autour de nous, qu'on apprécie leur identité profonde, ce qu'ils sont, apprendre à les connaître, à les découvrir, dire « Ah, oh, comme c'est merveilleux, j'arrête pas de complimenter. » Plus que les jours passent, plus que les jours avancent, plus que je me déploie, si on veut, puis que je fais ressortir ma personnalité, mon identité profonde, plus que je m'émerveille des gens.
Mais pour arriver à cet état-là, il faut une éducation. Si on remplaçait l'éducation à l'amour, qu'on reçoit depuis l'enfance, hein, parce que on se ment pas, il y a encore, l'Opus Dei est encore très présente. L'Opus Dei, c'est la mafia du Vatican. Donc, il y a encore ces maîtres à penser qui sont là, en arrière-plan, qui guident les choix à l'école, à la télévision. Aux États-Unis, on sait très bien qu'on peut pas se faire élire en tant que président si on n'a pas la majorité qui est religieuse.
Et les grandes fortunes aussi.
Donc, l'éducation au bonheur est quelque chose qui devrait commencer très jeune. Et commencer à éduquer nos enfants à être heureux, c'est pas quelque chose qui est habituel aujourd'hui, parce que je trouve que la majorité des gens ne sont pas heureux, donc ils peuvent pas enseigner ce bonheur-là. Moi, j'ai été chanceux. Mes parents, sans l'être trop conscient, étaient des gens extrêmement heureux. Ils venaient de la campagne, il n'y avait pas de problème. Donc, j'ai grandi dans le bonheur. J'ai pas eu de problème chez moi et ça m'a beaucoup aidé. Je dis pas que tu peux pas être heureux si t'as pas eu ça, là, mais ça va être... Quelqu'un qui grandit dans une famille démolie ou des parents dépressifs, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de trouver un équilibre, un bonheur, parce qu'il ne sera jamais capable de regarder derrière.
Mais c'est pas impossible.
C'est ça, ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Dans mon cas, ça a été très facile parce que je regarde ma mère, c'est une femme extrêmement heureuse. Ma grand-mère va avoir 100 ans cet été en août, et c'est une femme... lumineuse, donc tu vois qu'elle aime la vie. Tu ne peux pas vivre jusqu'à 100 ans et ne pas être heureux parce que sinon c'est un enfer. Donc l'apprentissage du bonheur est quelque chose de très important à mon avis. Et lorsqu'on on a appris ça, on peut commencer à éduquer les gens autour de nous. Moi j'éduque mes compagnes. C'est drôle de dire ça, éduquer ses compagnes, mais c'est rare de trouver quelqu'un qui est complètement heureux, qui va dire, posez la question autour de vous, demandez aux gens, est-ce que vous êtes en amour avec vous-même? Très peu vont vous dire oui. S'ils le sont, ils vont peut-être même avoir honte de vous le dire, parce qu'aujourd'hui, on va dire que t'es égoïste.
Ou t'es prétentieux et tout, t'as une façon de voir la vie.
Mais d'être en amour avec soi-même, c'est le minimum. Si quelqu'un n'est pas en amour avec lui-même, comment peut-il aimer les autres? Ou comment peut-il bien aimer les autres?
Mm-hmm. Absolument. Mm.
D'où le piège. À mon avis, le piège, il est exactement là. L'amour que nous avons, l'image de l'amour qu'on a, est cet amour du Dieu jaloux et vengeur. Qui reste dans notre subconscient.
C'est incroyable.
Mais si on est gentil, il va être gentil avec nous. Là.
Oui, c'est ça. Si tu suis les règles ce livre...
Il va t'aimer démesurément. Il va être que de caresses constamment et tout.
Exactement. Et si tu dévies du livre, là, c'est ça. Tu te garantis de brûler dans l'enfer éternel. Mais il t'aime.
Mais moi, ça me fait penser, tout ce discours-là, au fait que les gens vont, justement, tu parlais du passé, quelle a été notre vie familiale et autres. Les gens vont, encore aujourd'hui, je parlais avec une collègue qui me dit, il y a tant de gens qui font des thérapies, qui en veulent ou qui veulent une psychanalyse ou tout ce que l'on veut, ils se disant, je voudrais absolument résoudre mon passé en n'arrêtant pas de ressasser, de racler tous ces événements-là, tout ce que j'ai vécu quand j'étais petit ou à une autre maman. Mais moi, contrairement à Nicolas, je n'ai pas vécu une vie harmonieuse. En tout cas, moi, je me sentais démesurément heureux quand j'étais petit. C'est les plus grands souvenirs que j'ai. Je trouvais la vie tellement extraordinaire, tellement merveilleuse. Mais autour de moi, c'était pas comme ça. C'était l'antithèse dans ma famille. Je me suis fait une sorte d'identité un peu différente, même à l'opposé de mon père, par exemple, ou de ma mère, qui ne semblait pas heureux naturellement. Mais moi, ma mère me raconte souvent, j'arrêtais pas de saluer tout le monde, surtout les policiers, j'aimais les policiers particulièrement déjà à cette époque-là, à l'âge de 5 ans. Puis ils m'adoraient, le petit garçon qui arrêtait pas de saluer, il faisait la fête. J'étais tellement ravi quand je voyais une voiture de policiers ou de pompiers, ou toutes des voitures de camions que j'aimais, je suppose, quand j'étais petit. Puis ils me trouvaient tellement rigolo, puis ils adoraient me saluer à leur tour, puis me dire bonjour. Puis c'était comme mon point de départ, mais j'étais de la vie, j'étais seul avec moi-même souvent dans mon adolescence et dans mon enfance, puis j'ai vivais une vie extraordinaire, mais j'avais une vie trop isolée par contre. C'est le seul regret que je peux avoir, mais en même temps, je ne me suis jamais référé à aucune thérapie. J'ai préféré développer mes pensées, m'inspirer de la philosophie, m'inspirer du jovialisme et de tout ce qui me rend heureux, tout ce qui m'inspire. Encore, c'est exponentiel, tout ce bonheur-là. Le fait que j'ai été intéressé déjà dans la vingtaine à des mouvements de pensée comme celui-là, puis encore aujourd'hui d'être alimenté par tout ce bonheur-là et cette pensée.
Moi, je veux juste dire que prendre le bonheur, si on n'est pas parlé des mots puis du langage du concept, prendre le bonheur comme règle pour te diriger, c'est mieux. Parce que le bonheur récupère l'aspect positif de l'amour. On ne peut pas dire autant de l'amour tout le temps.
Et merci à tous d'avoir été à l'écoute et bonne semaine à tous. Je vous invite à venir écouter nos émissions sur propossurlebonheur.com.
Bonne semaine.
Bonne semaine, merci, à la prochaine.
Et je voudrais remercier le... j'ai fucké la fin.
On reprend la fin?
On va juste reprendre la fin. Et...
Ouais, ouais.
Bien, on va vous laisser réfléchir sur cette pensée merveilleuse de Robert. Et puis, j'aimerais remercier le Mouvement Jovialiste et Radio Centreville de nous appuyer dans ce merveilleux projet. Et puis, bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Je vous remercie, bonne semaine et à la prochaine.
Retrouvez-nous sur propossurlebonheur.com.
Fatiguée, elle explorait, dit-elle. Elle passait ni à penser à rien.